Voilà, j'aimerais lire avec vous le début du psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Un deuxième passage se trouve dans Jean chapitre 10, Jean 10, verset 11. Jésus dit, verset 9 peut-être d'abord, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis la porte. » Dimanche passé, Nicolas nous a exhortés, nous a encouragés à reformater en fait nos pensées. Un petit peu à l'exemple des ordinateurs que nous avons certainement tous maintenant. Soit les petits, soit les grands, certains n'en ont pas, mais enfin voilà, c'est pas grave. Et il a notamment cité le passage de Romains 1, 21. Il a donc cité Romains 1, 21, où il est dit « Ils se sont, et on peut mettre en parenthèse moi et nous, ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Égaré signifie qu'il a perdu sa route, qui donne l'impression d'un grand trouble intérieur. Vous avez déjà vu quelqu'un d'agar? Et c'est quelqu'un qui est égaré, hein? Ça vient d'égarer, agar. Dire que la personne ne sait plus où elle en est, elle ne sait plus où est sa route, elle est perdue. Et nous connaissons tous les conséquences que cela peut avoir dans notre vie lorsque nous sommes égarés. Ça vous est certainement arrivé un jour ou un autre, en montagne ou dans une ville, d'être égaré. Et c'est franchement pas très agréable, n'est-ce pas? Alors que Nicolas nous parlait sur l'importance de reformater nos pensées, j'ai été conduit à me resituer. C'est marrant, hein, tout ce qui peut se passer pendant un message. Hein. Moi, je ne sais pas où vous êtes pendant mon message. Hein. Peut-être que vous êtes. Mais moi, j'ai été amené à repenser à ce passage qui avait fait l'objet de plusieurs messages. Vous vous rappelez certainement de Genèse 5, 7, lorsque Dieu parle à Caïn et lui dit « Caïn, le péché couche à ta porte. » Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Oui. Puis après, il y avait eu tous ces messages là, à partir. Et tout d'un coup, en y pensant, parce que je pense aussi pendant les, voilà, j'ai le mot porte qui m'est venu. Et je me suis dit, mais attends, tu as parlé de Caïn, tu as parlé du péché, tu as parlé de dominer ou d'être dominé par le péché, mais tu n'as pas parlé de la porte. Oui. Alors moi, j'étais plus dans le message de Nicolas. Il m'avait juste entraîné ailleurs et j'ai commencé de réfléchir à cette question. Et ce matin, j'aimerais justement vous partager le fruit de mes réflexions sur ce simple mot « la porte ». Ça a l'air tellement simple et tellement banal qu'on se dit « mais il n'y a pas grand-chose à dire sur le mot « porte ». Nicolas a rappelé dimanche passé l'importance donc de nos pensées et il a rappelé que nos pensées, vos pensées, produisent des actes, n'est-ce pas? Et influent sur notre comportement. Ces actes, ces pensées, elles influent sur notre comportement, elles produisent des habitudes et finissent par nous entraîner ou donner naissance à une culture. Vous avez déjà entendu parler de la culture de l'honneur, par exemple. C'est une manière de penser qui vous amène à accomplir ou à agir d'une certaine façon. Et en cela, je pense que nous sommes vraiment créés à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quand même incroyable de penser que nous sommes capables de créer quelque chose qui n'existe pas encore aujourd'hui. Chaque jour, dans le monde, des choses sont créées, elles n'existaient pas hier. Elles étaient dans la pensée de quelqu'un, cette pensée a fait son chemin, et à un moment donné, ça a été amené à l'existence. Et en cela, Dieu crée à partir de rien. Il pense à quelque chose, il dit « Waouh !» Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, « c'est une bonne idée, allez on y va !» Paf ! Et en un instant, une seconde, ils n'ont pas besoin de dizaines d'années pour créer quelque chose qui n'existait pas. Et en cela, je me dis, nous portons l'image de Dieu. Et on voit qu'il y a des choses absolument géniales qui sont créées pour le bien commun de l'humanité. On peut mettre la deuxième, parce qu'on a sauté la première. Il y a des choses extraordinaires qui sont créées pour le bien quasiment de toute l'humanité. Tout le monde en retire en fait un bénéfice. Par contre, il y a des choses incroyables qui sont aussi créées à partir de la pensée de quelqu'un qui vont avoir des conséquences incommensurables sur toute l'humanité. Rappelez-vous Einstein. Le gars, il pensait, hein? Un peu plus que nous, il avait un quotient intellectuel certainement d'un niveau incroyable. Et cet homme a commencé de réfléchir et il a fait de savants calculs. Et à un moment donné, il est arrivé à découvrir la puissance atomique. Et en soi, ce n'était pas une mauvaise chose de parler de ça. Mais le problème, c'est que ça aboutit à des actes. C'est-à-dire qu'on a créé de cette pensée-là une puissance extraordinaire qui est la puissance atomique. Et à partir de la puissance atomique, on a fait une bombe atomique. Alors qu'on fasse de l'énergie, qu'on fasse de l'électricité à travers ça, ben c'est une bonne chose pour l'humanité entière. Mais quand on commence à fabriquer des bombes atomiques et qu'en plus on les largue sur une ville, voyez, ça crée aussi des conséquences incommensurables. Et ça, c'est le côté en fait négatif de la capacité que nous avons de pouvoir penser et à partir d'une pensée, créer quelque chose de concret. Et d'ailleurs, Einstein s'en est bien repenti hein, après, dans la fin de sa vie, en disant « Mais c'est de la folie, si seulement je n'avais pas pensé à ça, si je n'avais pas élaboré cette incroyable équation qui nous a permis à un moment donné de créer cette bombe atomique. » Prochain dia, vous remarquerez, et ça j'aimerais que vous puissiez prendre conscience que nous sommes dans le monde, n'est-ce pas? Vous êtes bien dans le monde, hein? On peut essayer de faire comme on veut, mais on est dans le monde, ça c'est une réalité. Hein? Et vous remarquerez que toutes les grandes idéologies, toutes, sont parties d'une seule personne ou de quelques personnes. Elles n'existaient pas jusque-là, et à un moment donné, elles ont prévalu dans l'histoire. C'est incroyable de voir... Là aussi, les conséquences d'une idéologie sur un peuple et parfois sur la terre entière. Vous voyez ici, vous avez quelques exemples d'idéologies qui ont parcouru l'histoire. C'est impressionnant de voir. Alors, bien sûr, le totalitarisme, vous savez ce que ça signifie. Le marxisme, vous savez ce que ça signifie. Et dans vos têtes, si vous avez un tout petit peu suivi l'histoire, vous voyez les conséquences d'une telle idéologie. On pourrait parler du rationalisme ou bien de qu'est-ce qu'il y a là, le capitalisme, la démocratie. Ce sont des idéologies. Qu'est-ce qu'une idéologie? Une idéologie, c'est un système de pensée hein, qui, à un moment donné ou à un autre, va constituer un corps de doctrine. Des gens pensent et ils pensent et à un moment donné, ça donne un corps. C'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose dans lequel on peut vraiment entrer, que ce soit au niveau philosophique, que ce soit politique, que ce soit religieux. Et à un moment donné, c'est ce qui est intéressant, ça va conditionner le comportement individuel et collectif. Quand Marx est arrivé, Lénine et tous ces gens-là, c'est impressionnant de se dire que 1, 2, 3 personnages peuvent soumettre un peuple entier. Toute la Russie a dû plier le genou devant eux. C'est le marxisme maintenant qui va diriger votre pensée. Et tout le monde a dit Alléluia. Voilà, le Messie est arrivé. C'est impressionnant, mais vous avez vu les résultats. Quand Hitler est venu au pouvoir, tout le monde en Allemagne disait, enfin tout le monde peut-être pas, mais une grande majorité des Allemands ont dit « Voilà l'homme qui va nous sauver de notre situation catastrophique ». Et effectivement, pendant quelques années, l'Allemagne est montée en puissance. Mais regardez les résultats. Ça, ce sont des idéologies. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes dans le monde dans lequel ces idéologies nous entraînent. D'une manière ou d'une autre. Même sans y penser. Donc, vous voyez, et puis je n'ai pas tout mis, hein, c'est il y a 3 pages. Hein. Je me suis dit, je ne veux pas trop vous fatiguer. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez faire votre choix. Hein. C'est comme au restaurant, vous allez, vous ouvrez la carte. Ah oui, ben moi, pour ces 6 prochains mois, ben, le totalitarisme, ça m'irait très bien. Voilà, je pourrais essayer enfin, plein d'autres choses comme ça. Vous comprenez ça? Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on soit chrétien ou pas. Hein. Donc, aujourd'hui, nous sommes influencés par des idéologies. La manière de penser dans le monde, en tout cas occidental, dans lequel nous sommes, n'est pas neutre. Il y a des superpuissances au niveau idéologique qui conditionnent le comportement, ton comportement à toi. Et ça, il faut qu'on le réalise. C'est ça qui va nous permettre à un moment donné de faire marche arrière ou de prendre conscience que, ah non, comme ça ne va pas. Hein. Alors c'est évident qu'on ne pense plus aujourd'hui comme au siècle des Lumières, comme au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, c'était extraordinaire, c'était un foisonnement de pensées, c'était aussi entre guillemets une bombe atomique de pensées. On sortait du Moyen-Âge, on n'avait plus envie d'être sous la férule de ces puissances, de ces autorités qui gouvernaient notre vie. On a dit stop avec tout ça. Alors dans un sens, c'est bien si ça ne se fait pas dans la guerre et dans le dénigrement complet des autres. Donc on ne pense plus aujourd'hui comme on pensait au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on appelait cette période le modernisme. Je vais utiliser quelques termes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais ça ne fait rien, ça nous fait du bien de devenir un tout petit peu plus intelligent. Nous avons passé par le modernisme. Alors c'est quoi le modernisme? Quelle était l'idéologie ambiante de l'époque? Là, on commençait de découvrir dans les sciences, dans la culture, dans la philosophie. Plein de gens se levaient avec de bonnes idées pour certains, d'autres moins. Et on était confiant en l'homme plutôt qu'en Dieu. Si vous regardez l'histoire, à un moment donné, au 18e, qu'est-ce qu'on a dit? Mais l'homme est capable. C'est un être penseur, c'est un être créatif, c'est un être qui est capable, par ses propres moyens, de diriger sa vie. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de Dieu? Alors on a gentiment, mais là gentiment mis Dieu de côté, on a dit, ça ne te fait rien de te retirer un petit moment. Et voilà, et on a fermé la porte et on a commencé de développer toutes ces magnifiques pensées qui nous traversaient l'esprit. Ça a duré 2 siècles. Après 2 siècles, on en a eu marre parce qu'on s'est dit, bon, la science a fait des progrès extraordinaires, la raison humaine, la science, voilà, mais ça ne suffit pas, on n'y arrive pas. Ça ne comble pas nos vies. Donc il faut inventer quelque chose de nouveau. Il faut une nouvelle idéologie. Mais là, on n'en est même pas conscient ici. Quand on en parle, quand j'en parle, quand j'étudiais la question, je me disais, mais effectivement, autour de moi, en moi, il y a des choses qui se passent dont je ne suis même pas conscient. Alors on a changé les paradigmes et on a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est le postmodernisme. Qui a entendu parler du postmodernisme? Quand on lit un titre comme ça dans un journal, on passe à la page suivante, résultat du hockey. Hein, parce que, non, mais c'est vrai, ça ne nous intéresse pas globalement. Mais c'est une erreur. Parce que sans s'en rendre compte, on va subir les conséquences du postmodernisme. C'est une autre idéologie. On veut faire entrer tout le monde dans le postmodernisme. Alors c'est quoi le postmodernisme? Ah. Ben ouais, mais je vais vous le dire ce matin. Vous n'êtes pas à l'église pour rien. J'aimerais lire, vous pouvez mettre le diapositive numéro 4, s'il vous plaît. Si ça vous intéresse vraiment, il y a un livre, il n'est pas très facile, mais enfin voilà, encore une fois, on peut élargir nos connaissances, « Les défis de la postmodernité », où il nous explique qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre monde, dans lequel nous sommes, là où j'ai bien mes pieds. Hein. Et un monsieur qui s'appelle Adalbert Berwolf a écrit « Les plus grands événements de l'histoire naissent sans qu'on s'en aperçoive ». Il résulte des mouvements imperceptibles de la pensée, car ce sont les pensées qui mènent le monde. Effectivement, ce sont les penseurs, ceux que l'on appelle les philosophes, qui ont été à l'origine à la fois du modernisme et du postmodernisme. Il a raison. C'est une réalité. Alors c'est quoi le postmodernisme? Sa singularité... Alors attention, je vais encore utiliser des mots, mais encore une fois, c'est des mots qui ont un sens. Hein. Le postmodernisme va rejeter les méta-narratifs. Répétez. Les méta-narratifs. Hein. Ce sont ces grands récits, ces grands thèmes, ces grandes théories qui ont prévalu pendant des siècles. On n'avait pas besoin de réfléchir, il y a des gens qui réfléchissaient à notre place. Alors on y entrait et on suivait le troupeau. Dans les grands méta-narratifs, c'est des gens qui disaient « Voilà la vérité, c'est ça !» Et tout le monde disait « Oui, c'est ça !» Mais c'est ça. La réalité, elle est là. Il faut la regarder en face. Et c'est seulement après, avec les conséquences qui en découlaient, qu'on se disait « Ah non, c'était pas ça !» Mais vraiment pas du tout. Parce que derrière, c'était un champ de bataille, derrière, c'était la ruine, derrière, c'était la déconvenue. Ça ne jouait pas, ça n'allait pas. Donc, il fallait chaque fois inventer quelque chose de nouveau. Alors voilà, il y a eu les messies du postmodernisme. Et voilà, Eh bien, c'est pas rien, hein, Charles Darwin. Est-ce qu'il a eu de l'influence dans ce monde? Est-ce qu'il a eu de l'influence dans nos écoles? Est-ce qu'il a eu de l'influence dans nos pensées? Ben, un peu, hein. Marx, il est un peu dépassé, mais il y en a quand même encore pas mal qui croient en lui. Sigmund Schlomo Freud, il était juif d'origine. Ah, magnifique, hein, la psychanalyse. Qu'est-ce qu'il y en a des qui ont passé dans les cabinets de psychanalystes, hein? Alors, encore une fois, on ne veut pas tout rejeter et dire tout ça, c'est négatif. Mais vous voyez, une personne, l'idéologie qu'il transmet, et nous, on baigne là-dedans. Et on nage allègrement dans de l'eau à 28 degrés, avec son petit canard à côté. Ça, non, mais pour vous dire qu'on y comprend, on ne le sait pas. Et cet homme avait raison, hein, en disant qu'elle naît sans qu'on s'en aperçoive. Et on est dedans. Donc voilà, on arrivait à un moment donné en disant « Oh, stop, 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 là, il faut revoir la leçon, ça joue pas. Le modernisme, ça joue pas. Donc le postmodernisme, on rejette toutes ces grandes vérités. On se libère complètement. On devient des êtres absolument libres. Hein, et en fait, toutes ces vérités-là ne sont que subjectives. Tu veux croire ça? Ben, crois. Moi, je crois autre chose. Alléluia, tout le monde croit ce qu'il a envie de croire. Et c'est exactement le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Chacun a sa vérité. Le postmodernisme, c'est il n'y a plus de vérité, il y a des vérités. Alors moi, j'aimerais entendre quelle est votre vérité. On devrait faire un dimanche où chacun amène ses... Non, mais nous, on est déjà une idéologie en soi. Hein, mais c'est une idéologie qui est voulue, qui est consentie. Hein, on ne nous a pas obligés à devenir chrétiens. On l'est devenu à un moment donné parce qu'on a réfléchi sur ce que Jésus disait, sur ce que la parole de Dieu disait. Et il y a quelque chose qui est venu rencontrer notre cœur. Hein? Ce n'est pas des soldats qui sont venus, des troupes, en nous mettant le fusil sur la tempe, en disant, là, maintenant, soit tu crois, soit tu ne crois pas, comme ça se passe en Syrie, en Irak, au Liban, tout, hein? Voilà. Donc, il n'y a plus de vérité aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on vit dans notre monde. Alors, je vous dirai une chose. Dans le fond, c'est un temps de grâce. Si vous vous situez dans l'histoire de l'humanité, vous auriez voulu vivre sous Néron?
Non.
Vous auriez voulu vivre sous Hitler?
Non.
Ouais, on pourrait prendre tout un tas d'exemples. Et aujourd'hui, si je regarde les choses comme je les vois avec ma vérité, je me dis, peu cher, mais c'est un temps de grâce. C'est incroyable qu'on puisse choisir ce qu'on veut. Le matin, on se lève et on peut croire en ce qu'on veut. Il n'y a personne qui va nous dire « Stop, là, 3 ans de prison parce que tu as pensé comme ça. 2 ans de travaux forcés parce que tu as pensé comme ça. » Non, on est absolument libre. Nous ne sommes plus obligés de nous plier à une seule vision, une seule orientation, une seule idéologie. Nous vivons librement. Il n'y a plus le curé, le maire, l'instituteur qui sont là pour gouverner nos pensées. Si vous avez encore des arrière-grands-parents, mais parlez un peu avec eux. Hein, le village, c'était qui? C'était pas les gens. Le curé, le maire et l'instituteur. Et ils faisaient le beau temps du village ou pas. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, nous sommes libres de vivre tel qu'on le veut, comme on veut, avec nos vérités à nous. Donc moi, je pense que c'est un temps de grâce qui est là encore permis par Dieu sur cette terre. Parce qu'écoutez bien, si vous ouvrez le livre de l'Apocalypse qui se plonge dans l'histoire et qui nous relate des périodes de cette histoire, qu'est-ce qu'il est dit au chapitre 13? Mais écoutez bien cela. Chapitre 13, verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête » qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée qui vivait. Vous arrivez à vous projeter dans la suite de l'histoire? Ça, c'est l'étape suivante. Aujourd'hui, nous sommes libres, mais un jour, la bête va se lever. Et ça concerne la terre. Ça concerne les habitants de la terre. Je ne crois pas que je fasse une interprétation hérétique ou erronée de ce passage. À un moment donné, ça viendra. Et on est très conscient qu'en ce moment, le filet est en train de se resserrer. Hein? Dans quelques temps, dans quelques semaines ou mois ou années, ben on aura tous une puce qu'on trouvera vraiment très intéressante parce que plus besoin de clé, plus besoin de porte-monnaie, plus besoin de carte de chez Manon, de la Migros, de machin. Non, on aura tout sur place. Hop, dans la main droite et on n'y voit rien. Ça existe, je vais vous montrer un film, j'aurais dû le prendre avec. En Suède, ça existe. Vous pouvez aller vous faire pucer. Et en France aussi, enfin, ça vient partout. Donc, voilà, on n'est pas en train de... On n'est pas en train d'extrapoler, ça c'est un beau mot, hein? Ou bien de partir dans un monde d'utopie, de rêve. On n'est pas dans un monde de bisounours, hein? On est dans le monde. Et moi je pense que ça sera le temps de la fin de la grâce. Cette espèce de couverture qui est encore sur la terre, tout autour de la terre, Dieu va gentiment la retirer. Et c'est comme sur nos vies, si Dieu retire sa grâce sur nos vies, comme une couverture, qu'est-ce qui reste ? Moi et mon péché. Hein ? Si la grâce de Dieu n'est pas là dans nos vies, nous sommes incapables de faire face. Et c'est ici que nous devons faire preuve de sagesse et d'écouter ce que la parole de Dieu dit, ce que l'Esprit dit, pas seulement à l'Église, aux Églises, mais aussi à ce que l'Esprit me dit à moi. Ce qui vient d'être dit nous aide à nous situer, à nous replacer dans une réalité. Des fois, en tant que chrétien, ça plane un peu, hein, on est un petit peu dans un autre monde des fois. Mais quand on prend conscience du lieu où nous sommes, si nous prenons conscience que nous sommes dans le monde, alors ça fait un peu frémir. Mais Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça c'est intéressant. Comment je peux être en même temps dans le monde et ne pas être du monde ? Tu viens y réfléchir ? Ouais, vous êtes en train de me suivre quand même encore, ou bien vous êtes largué dans le modernisme, ou bien au XVIIIe siècle. Ou bien... Donc, être dans le monde signifie pour chacune et chacun d'entre nous que nous sommes confrontés aux mêmes réalités. Peu importe ta réalité, à un moment donné, le vent contraire va venir et ça sera très difficile d'aller à contre-courant. Très difficile. Et la parole de Dieu est là. Et comme, ouais, c'est déjà là. Hein, on le sent. Rappelez-vous quand même que vous-même, moi-même, comment est-ce que j'ai été construit dans mon identité ? Comment est-ce que je suis devenu celui que je suis aujourd'hui ? Ben, j'ai eu, je pense pour la plupart des parents, un papa, une maman, qui se sont penchés sur mon berceau, qui ont fait « Arre, arre, mon nounou, gouloulou, etc. » Puis après quelques années, c'est « Allez, viens maintenant à table, tu finis ton assiette. Hein? » Donc voilà, tout ça fait que jour après jour, ma personnalité s'est construite, mon identité. J'étais à l'école et j'ai entendu plein de choses, puis je devais répéter, puis remplir des pages, c'était l'horreur. Mais ça fait qu'aujourd'hui, je suis capable de faire que 4 x 4 font 15. Donc voilà, c'est... Et puis on s'est tous à un moment donné, qu'on le veuille ou non, un peu rebellé, n'est-ce pas ? On a tous eu notre mai 68, hein, on a tous envoyé des pavés dans la mare, hein, ou ailleurs. Parce qu'on se dit quand même, maintenant c'est à moi de prendre mes responsabilités, mes parents, taisez-vous, etc. Ça a été un peu rebelle, ça a été un petit peu voilà, contre-courant. Et puis à un moment donné, on a quand même dû se situer. Moi quand je suis revenu d'Israël, après je n'étais pas encore chrétien à ce moment-là, je me disais, dans quel milieu est-ce que je vais m'insérer ? Le milieu sportif, oh, ça fait 15 ans que j'étais là-dedans, assez. Le milieu des minets, ça s'appelait, voilà, vous allez danser le samedi soir, voilà. Et puis, on se fait beau, enfin, on essaye, c'était difficile, mais bref. Ou bien, le milieu du rock, moi, j'avais des copains qui avaient un orchestre, ça s'appelait Électrique Funérale, puis ils m'ont demandé d'être manager d'Électrique Funérale. Alors, j'ai laissé pousser mes cheveux, j'ai blouson noir. Ah, si je vous montrais des photos, là, vous direz, oh mon Dieu, heureusement qu'il s'est converti. Voilà. Donc, j'ai dû m'insérer dans un milieu. J'ai fait des choix en fonction de toutes ces pensées qui me venaient. Puis je me disais à un moment donné, voilà, je vais m'insérer là-dedans. Malheureusement, c'était le milieu aussi de la drogue. Hein, la musique rock, tout ça, ben, bref, l'alcool, la drogue. Et heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai pu me sortir de ce milieu-là parce qu'une autre pensée est venue au travers de cette jeune demoiselle qui m'a parlé de Jésus. Des fois, il faut peu de choses, hein. Une petite demoiselle de 16 ans qui vient vous dire parler de Jésus, ça pèse pas lourd hein, dans ce monde par rapport aux grandes idéologies. Mais ça a suffi pour me faire dévier et puis m'amener là où Dieu me voulait. Alors, on va terminer. Par rapport à ce monde, à cet univers, à ces galaxies de pensées qui gigotent hein, autour de nous, qui est suffisant ? Qui est suffisant pour faire le tri ? Qui est suffisant pour dire « ça je laisse entrer, ça je laisse dehors » ? Qui est suffisant pour dire à un moment donné « ça c'est une, vraiment une bonne pensée pour ma vie, ça va m'édifier, ça va me faire grandir, ça va me faire hein, devenir un homme, une femme, fait hein ?» Nous sommes assaillis de pensées contradictoires à longueur de jours, à longueur de semaines, de mois et d'années. Et nous devons essayer d'éviter certaines, nous devons essayer, voilà. Hein. Et dans ce sens-là, je pense que nous pouvons tirer un parallèle avec entre nos vies et les villes. Vous comprendrez pourquoi. On peut projeter la prochaine dia. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne construit la ville, si l'Éternel ne garde la ville, on peut passer au prochain là. Voilà. Si l'Éternel ne garde la ville, pourquoi est-ce que je prends l'exemple d'une ville? Parce que dans l'Antiquité, ce qui était particulier, en tout cas aux grandes villes, mais à toutes les villes, elles étaient bien sûr entourées d'une enceinte, n'est-ce pas ?
Oui.
Pour se protéger.
Oui.
Mais ce qui était impressionnant, et ce que nous pouvons encore voir aujourd'hui, ce sont les portes principales des villes. On appelait ça des portes monumentales. Pourquoi est-ce qu'on faisait des portes aussi grandes et aussi monumentales ? Ben, c'était pour dire à l'ennemi potentiel, hey, attention, vous avez vu ma porte ? Vous avez vu ma porte ? Là, on n'entre pas. On n'entre pas comme on veut. On ne fait pas ce qu'on veut chez nous. Parce que celui qui est derrière la porte ou celui qui a construit la porte, il est puissant. Il a du muscle. Il a une armée. Il a des moyens. Donc, attention. Hein. Quand vous arrivez devant la porte, votre identité, qu'est-ce que vous venez faire ? Pourquoi vous voulez entrer dans ma ville ? Qu'est-ce que vous voulez y faire dans ma ville ? Combien de temps vous voulez rester ? Hein ? C'est étonnant, aujourd'hui, bien sûr, on n'a plus ça dans les villes modernes. Mais quand vous débarquez, je ne sais pas, je prends un exemple, à Berlin, et que vous entrez dans un hôtel, qu'est-ce qu'on va vous demander ? Votre identité, votre passeport, vos coordonnées, combien de temps vous restez. Si vous allez en Russie, vous en avez une liste, vous avez 10 pages à remplir, ou si vous allez en Corée du Nord, vous restez pour toute la vie, presque. Donc, vous voyez, ce sont des exemples de ces portes monumentales de l'époque. Est-ce que ça donne un sens en voyant ça ? Est-ce que vous pouvez là tirer un parallèle avec ce que Jésus a dit ? Je suis la porte. J'ai réalisé que je n'avais jamais prêché sur « je suis la porte ». J'ai prêché sur « je suis la résurrection, la vie, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis... » Mais je me dis, c'est tellement banal la porte, c'est tellement simple. Tu ne veux pas faire un message sur les portes quand même ? Ben si. Et quand on regarde ces portes, il faut voir tout ce qui se passait à l'entrée des portes des villes. C'était le lieu stratégique, le plus important de la ville. Les murailles, c'était une chose, mais la porte, ça c'était quelque chose. Celui qui prenait les portes d'une ville, eh bien, se rendait maître de la ville. Tout se passait là. Toutes les idées, toutes les pensées, toutes les idéologies, toutes les marchandises, tout l'argent, tout passait par là. Vous ne pouviez pas entrer dans la ville sans passer par la porte. Et on faisait plein, il y avait plein de discussions, des rencontres. Rappel, on parle des anges, Lot, hein, c'est aux portes de Sodome qu'il voit les anges arriver. Et puis voilà, on voit d'autres, les affaires commerciales, les jugements hein, étaient vécus là. Et puis surtout le tri, comme j'ai déjà dit, hein. Dans Actes 9, 24, quand Paul essaye de se tirer, là, il était dans la ville, et puis il est dit qu'on gardait les portes jour et nuit. Après, on l'a descendu dans un panier, vous vous rappelez l'histoire. Hein. On gardait les portes jour et nuit, on s'est dit, le gars, il va passer par là et on va le coincer. Hein. Donc, c'est là que je fais et je termine vraiment, c'est là que je fais le lien avec ces deux passages de l'Écriture. Quand Dieu dit à Caïn, « Caïn, le péché couche à ta porte », vous voyez, c'est toutes ces pensées qui viennent à la porte de nos vies. Moi, je lutte chaque jour. Est-ce que vous n'avez pas lutté, vous, avec des pensées? Mais même à chaque instant, je vois que le monde des esprits, etc., autour de moi, je suis continuellement en phase. Bien sûr que je suis en phase aussi avec la matière. Bien sûr que quand je suis à mon tour en train de faire des pièces d'horlogerie et tout, c'est du concret. Mais c'est aussi concret que les réalités intellectuelles de l'esprit. Hein? Donc, quand Dieu dit « Le péché couche à ta porte », je me dis, moi, attends, mais c'est quoi la porte, là? Elle a intérêt à être solide, hein? C'est pas juste une petite porte à battant, là, où le moindre coup de vent vient, et puis, pouf, elle s'ouvre. C'est pas la journée non plus, portes ouvertes. Hein? Imaginez toutes les maisons de Chaux-de-Fonds sans porte. Vous imaginez ce que ça donnerait? Tous les appartements sans porte. Mais des fois, on a l'impression que c'est ça. Il y a des gens, ils sont sans porte. À tout vent de doctrine, ouh, ils passent par là. 2 semaines plus tard, c'est là. 3 semaines plus tard, c'est là. C'est impressionnant de réaliser l'importance de la porte. Donc, c'est pas pour rien que Dieu nous parle au travers de Jésus en nous offrant quelque chose au travers de lui. J'ai reçu Jésus comme mon sauveur, j'ai reçu Jésus comme le prince de paix, j'ai reçu Jésus comme mon chemin, ma vérité. Tout ça, c'est juste et ça n'a fait qu'ajouter à ma vie quelque chose de plus. Mais est-ce que Jésus est la porte de ta vie? De tes pensées. Pour moi, ça a été comme un, voilà, je veux dire, oh ouais, ça c'est un truc, même si inconsciemment je le fais, hein, parce qu'en tant que chrétien, quand il y a des choses qui viennent sur nous comme ça, et on ne sait pas quoi faire, est-ce que je les parque dans ma ville, est-ce que je les laisse entrer, je les laisse pas entrer, il y a peut-être un cheval de Troie, vous comprenez? Vous vivez tous ça, je pense. Puis non, ça je ne le veux pas, non. Alors on ne le dit pas, hein, parce qu'il n'y avait pas la micro, non, non, ça je ne le veux pas. Mais intérieurement, on dit ça je ne le veux pas. Ça, ça n'a rien à voir avec. Non, je ne veux pas entrer là-dedans. Ah non, mais ça, c'est vraiment des esprits impurs qui viennent sur moi. Hein? Ben, c'est ça. Et moi, j'y suis confronté tous les jours. Jésus, il a dit de Jésus qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, sans péché. Il a eu peut-être des pensées de suicide à un moment donné. Qu'est-ce qu'on en sait? Il a eu des pensées d'impureté. C'est pas la pensée en soi qui est importante. C'est ce que je vais en faire. Est-ce que j'ouvre ma porte ou est-ce que je la ferme? Et comme j'ai dit avant, personne qui est suffisant, qui est capable de faire la différence. Moi, je ne peux pas. J'ai essayé pendant un temps, j'y arrive pas. Donc, il faut que j'aie une porte monumentale, là, dans ma vie. Ça ne sert à rien d'avoir des belles murailles autour de moi, de connaître tous les passages bibliques par cœur et d'avoir une porte ouverte. Et c'est, je pense, à ce moment-là que Jésus nous dit, je suis la porte. Est-ce que tu veux m'installer comme porte de ta vie? Si l'Éternel ne bâtit la maison, oh, j'ai oublié la porte. Waouh, c'est pour ça qu'il y a des courants d'air. C'est pour ça qu'il y a n'importe quoi qui rentre. Et puis après, pour les faire sortir, je peux vous dire, hein, waouh. Si l'Éternel ne garde la ville, moi, je veux que ce soit Jésus qui garde mes pensées. Et Jésus a dit, je suis la porte. Alors, voilà, on peut s'imaginer, mais pourvu que ce soit une porte monumentale qui soit devant vous. Louisa May Alcott a écrit « Je possède un petit royaume, celui des pensées et des sentiments, parce que souvent pensée et sentiment c'est lié, hein, et je trouve très difficile de bien le gouverner. » Je trouve bien difficile de le gouverner. Et voilà pourquoi Jésus s'offre à toi, s'offre à nous ce matin pour être notre porte. L'apôtre Paul a écrit cela à un moment donné. C'était un homme qui pensait beaucoup, n'est-ce pas? Et au travers de ses pensées, il a fait des actes, il a commis des actes répréhensibles, puisqu'il a jeté les chrétiens en prison, il les a persécutés, etc. Quand il a été transformé, quand Jésus est devenu son sauveur, son Seigneur, qu'est-ce qu'il a pu dire à un moment donné de sa vie? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et à un autre moment, il dira, nous, moi, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Alors, il faut du temps pour que tout ça évolue en nous. Hein? Parce que même après 10, 20, 30, 40 ans de vie chrétienne, Ah, parfois il y a des trous béants. Parfois la porte, je ne sais pas, moi je l'ai laissé ouvert, comme Rizal disait ce matin. J'ai laissé peut-être ouvert juste un tout petit peu pour que l'air entre dans ce domaine de ma vie. Et les conséquences, elles sont au niveau d'Einstein. Hein, c'est une bombe atomique que j'ai laissé entrer. Et après, je suis étonné que ma vie chrétienne, c'est un petit peu comme ci, comme ça. Hein. Je suis la porte. Amen. Jésus veut être la porte monumentale de notre vie pour que nous puissions le glorifier dans tout ce qui devient notre culture à un moment donné. Hein. Nos pensées, nos actes, nos habitudes et notre culture. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que au travers de toutes ces paroles de l'Écriture, au travers des messages, au travers de ce que tu nous dis, nous construisons. Nous devenons, Seigneur, une ville imprenable pour l'ennemi. Et nous te remercions parce que, c'est vrai, nous sommes dans ce monde. Et si nous étions laissés à nous-mêmes dans ce monde, même avec des bonnes pensées chrétiennes, ça ne suffirait pas. C'est vrai, nous avons besoin que tu sois notre chemin, notre vérité, que tu sois notre alpha, que tu sois notre oméga, que tu sois notre paix. Mais nous avons besoin que tu sois notre porte. Quand l'ennemi arrive, quand il est à la porte de nos vies, quand il te voit, waouh, il ne peut pas entrer. Tu es une sécurité, tu es un rempart. Tu es un rempart pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, je te demande, Seigneur, de nous rendre sages, de nous amener à essayer de voir si la porte est bien en place. S'il y a de l'huile hein, dans les gonds, si tu es à ta place, Seigneur, si on te laisse faire agir et être ce rempart dont nous avons besoin. Merci pour ton idéologie, Seigneur, parce qu'on l'a reçue librement et on te suit librement encore aujourd'hui. On peut dire non, on peut dire oui. Tu n'es pas un dictateur, tu es un Dieu d'amour, tu es un bon berger qui conduit ses brebis. Gloire te soit rendue. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse.